Bonjour à tous, frères et sœurs. Je voudrais lire avec vous le passage de Matthieu, mais avant je vais prier pour que le Seigneur nous instruise par sa parole. Seigneur, c'est toi que nous voulons entendre. Seigneur, c'est toi que je veux entendre, dont je veux parler, Seigneur. Et je voudrais que tu me donnes la force, la capacité, l'intelligence aussi, la clarté dans mes paroles, Seigneur Jésus, pour que tu sois toi glorifié, que ta parole soit lue, soit entendue, soit comprise, pour que nous puissions vraiment te connaître, toi, le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père éternel, en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais lire avec vous un passage très connu qui se trouve à la fin de l'Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16. Ah oui. Donc, les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce passage est intitulé dans ma Bible « Mission confiée aux disciples ». Mais cela ne sera pas le sujet de ce message. Je vous parlerai plutôt de celui qui parle ici, de celui qui peut parler ainsi. Il est celui qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, qui est assis à la droite de Dieu, et qui continue de travailler avec ceux qui prêchent la parole, selon ce que nous dit aussi l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 19 et 20. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, cela se poursuit encore maintenant. Quel réconfort de savoir que quand nous prêchons la parole, que ce soit courtement ou longuement, le Seigneur travaille avec nous. Et nous travaillons avec lui. Nous prêchons sa parole. Je voudrais réfléchir avec vous à tout ce que le dernier verset de Matthieu peut nous dire. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela nous fait 4 sections, avec la première qui sera plus développée que les autres, parce qu'elle est primordiale. Ce sera une révision pour beaucoup, et peut-être une découverte pour d'autres. D'abord, la phrase commence par « je suis ». Ce « je suis » a été précédé de beaucoup d'autres que nous relirons tout à l'heure. Il est important car il fait référence à ce que Jésus est vraiment. Jésus s'est révélé progressivement à ses disciples, aux Juifs et même aux Samaritains, comme Messie, comme Fils de Dieu, en leur demandant parfois de ne pas encore le dire à tout le monde. Par exemple, à la Samaritaine, Jésus se révèle à elle, et dans la conversation qu'il a avec elle en Jean 4, 25, la femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Jésus révèle donc ici qu'il est le Messie tant attendu par les Juifs, par les Samaritains. Ils attendaient le Messie. Un deuxième exemple, Jésus avait guéri un aveugle de naissance et il le rencontre de nouveau et va lui faire comprendre qu'il est plus qu'un guérisseur, même un guérisseur venu de Dieu. Dans Jean chapitre 9, versets 35 à 38, Jésus apprit qu'il l'avait chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Cet homme avait rendu un très bon témoignage devant les chefs religieux en disant que si l'homme qui l'avait guéri ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il avait une bonne compréhension, mais incomplète. Jésus, après lui avoir donné la vue, lui ouvre l'esprit pour qu'il sache qui il est, lui, Jésus, qui il est vraiment, le Fils de Dieu. Cet homme l'adore, et Jésus le laisse faire. Car Jésus sait qui il est, et il est normal que cet homme l'adore. Lisons ce que Jésus dira à Philippe plus tard, en Jean 14, 8 à 11. Philippe lui dit « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. » Il y a peut-être longtemps que nous côtoyons Jésus. Qui est-il réellement pour nous? C'est une question importante. Et c'est pourquoi Jésus l'a posé à ses disciples. En Matthieu 16, 13 à 16, il dit « Bon, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie. » Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » On voit qu'à cette époque-là, les opinions divergeaient à propos de Jésus. Et d'ailleurs, elles n'étaient pas toujours très logiques et supposaient une sorte de réincarnation. Aujourd'hui, la personne de Jésus apparaît dans des religions et des sectes. Mais est-il vraiment reçu tel qu'il est? Certains se disent témoins de Dieu et se présentent maintenant comme chrétiens. Mais si vous abordez le sujet de Jésus, ils ne le considèrent pas comme Dieu. Ils le placent en dessous, comme une créature, un ange, juste en dessous de Dieu. Or, la parole de Dieu nous dit clairement en Colossiens 2, 8, 9, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Jésus pouvait dire à Philippe, « Ne crois-tu pas que le Père est en moi et que moi je suis dans le Père ?» En lui, en Jésus, habitait et habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas un ange, aussi haut placé soit-il. Quand Dieu envoie un ange pour parler à des hommes, cet ange ne se laisse pas adorer. Nous le voyons par exemple dans l'Apocalypse, Apocalypse 19, versets 9 à 10. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Seul Dieu peut être adoré. Et Jésus a laissé cet homme l'adorer, parce qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. La plénitude de Dieu habitait en Jésus-Christ et habite en Jésus-Christ. Le diable, qui est un ange rebelle et déchu, il a été déchu de sa place, il a été rejeté par Dieu à cause de sa désobéissance. Il aurait voulu que Jésus l'adore. En Matthieu 4, versets 8 à 10, le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable, à l'origine, était responsable de la terre, il était responsable. Il avait une grande autorité, mais il s'est révolté, donc il a été déchu. Et là, il aurait voulu que Jésus l'adore. En tant qu'homme, Jésus était là en tant qu'homme, pleinement homme. Mais Jésus lui répond par la parole de Dieu. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Jésus est au-dessus des anges. C'est ce qu'on lit dans Hébreux, au chapitre 1. Il faudrait lire tout le début, mais on va lire que quelques versets, deux versets. Hébreux 1, 4 à 6. « Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ?» et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit « Que tous les anges de Dieu l'adorent. » Les anges doivent adorer Jésus. Donc, ceux qui le voient comme un ange se trompent. Ceux qui le voient comme un extraterrestre se trompent aussi. Il y en a, hein. Il y en a qui mettent Jésus comme un extraterrestre. Ils se trompent aussi car il ne serait qu'une créature dans ce monde matériel immense qu'est l'univers. Une créature très évoluée, mais une créature quand même. Mais Jésus est le Créateur. En Hébreux 1, toujours, versets 2b à 3, « Par lui, il a aussi créé l'univers. » Dieu a créé l'univers par Jésus. Il est le Créateur de l'univers. « Et le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toute chose par sa parole puissante. » Est-ce qu'on réalise que c'est Jésus qui soutient toute chose par sa parole puissante? Vous voyez, il est au-dessus de tout. D'autres le reconnaissent comme un grand prophète. Oui, il est un grand prophète pour eux. Mais ils refusent de le reconnaître dans ce qu'il est réellement, le Fils de Dieu. Et ils affirment, Dieu n'a pas de fils. Ils réagissent en fait comme les Juifs ont réagi à l'époque de Jésus. En Jean 8, 24, Jésus dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et là, dans la traduction Tob, la traduction œcuménique, eh bien, elle est encore plus explicite finalement, puisqu'elle dit « Si en effet vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si vous ne croyez pas que je suis. Et Jésus ici, bien sûr, fait référence directe au nom que Dieu a donné à Moïse en Exode 3, verset 14. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » C'est important de bien comprendre ça. Jésus est celui qui s'est adressé à Moïse. Il s'est révélé déjà à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et là, devant les Juifs, il dit, « Vous mourrez dans vos péchés si vous ne reconnaissez pas que je suis. » Les Juifs s'opposent à Jésus. Ils font comme s'ils ne comprenaient pas ce que Jésus veut dire. Donc Jésus insiste. Toujours en Jean, au chapitre 8, versets 56-59, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Si nous voulons, être sauvés, nous devons confesser la divinité, la seigneurie de Christ. En Romains 10, verset 9, il est dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » L'apôtre ne dit pas « Si tu confesses que Jésus était un prophète » ou « Si tu confesses que Jésus était un homme important à son époque, qu'il a eu de l'influence, etc. » Il ne dit pas ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, ça veut dire qu'on reconnaît que Jésus est le Seigneur, celui qui règne. C'est ça qu'on doit confesser. Et au verset 12 et 13, « Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » À partir du moment où nous comprenons que Jésus est Créateur, Sauveur, Seigneur, nous savons aussi qu'il peut ajouter à ce « je suis » toutes sortes de qualificatifs qui répondent en fait à nos besoins essentiel, car Dieu est tout pour nous. Alors nous pouvons nous rappeler les « je suis » de Jésus. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte pour entrer dans le ciel. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Et je suis roi. C'est ce qu'il dit à Pilate. Je suis roi. Tu as raison. Je suis roi. Le roi, eh ben, tout simplement, c'est celui qui est assis sur le trône. C'est lui qui dirige. C'est lui qui commande. Jésus, il est le roi. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 21, versets 5 à 6. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Jésus est le roi des rois, le Dieu véritable. Prenons pour conclure cette section l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire Dieu. Le véritable, c'est Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, c'est très important de comprendre qui est Jésus, le « je suis ». Si nous avons une conception de Jésus, que Jésus était un homme important, certes, qui a laissé des paroles intéressantes à recevoir, bon, ça peut être intéressant comme d'autres sont intéressants, si on le laisse à la place d'un homme. Si les prophètes seulement, bon, il peut avoir dit des paroles de la part de Dieu, mais c'est tout, ça peut s'arrêter là. S'il est un ange, bon, pour ceux qui croient aux anges, alors il aurait une importance dans le ciel. Mais Jésus n'est pas ça, il est plus. Jésus est le Dieu véritable. Il est le Créateur, l'Éternel. Donc ça change toute notre conception de la vie. Parce qu'à partir du moment où on croit que Jésus, il est Dieu, alors ça implique notre obéissance. Ça implique de se conformer à sa volonté. Donc la conception que l'on a de qui est Jésus-Christ va impliquer, va impacter notre vie. Donc Jésus nous dit « Je suis avec vous ». Dans le sens premier, Jésus est à nos côtés. Il est avec nous et il est même en nous par son Saint-Esprit. Nous avons la présence de celui qui est l'Éternel, qui est Dieu. Jésus étant le « Je suis », le Tout-Puissant, s'il dit qu'il est avec nous, alors nous avons toutes les ressources de Dieu avec nous. Paul dira en Colossiens 2:10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Vous avez tout. Pas besoin de chercher ailleurs. Vous avez tout en lui. Tout ce dont vous avez besoin, vous l'avez en Christ. Et en 1 Corinthiens 3:23, tout est à vous. Tout est à vous. Vous avez tout à votre disposition, en fait. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout nous est possible en Christ. Mais attention, ce n'est pas le Gott mit uns des nazis, hein, qui croyaient que Dieu était avec eux pour la guerre. Non. Tout est possible en Christ si nous sommes soumis à Christ, comme lui l'a été et l'est jusqu'à la fin à son Père. Nous appartenons à Christ, notre volonté doit se conformer à la sienne. Jésus est avec nous et le nom qui a été donné, qui lui a été donné, signifie Dieu avec nous, comme nous le lisons dans Matthieu, mais qui est la reprise d'une prophétie. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Avec nous, ça veut dire aussi, je le ressens comme ça, avec nous, cela signifie aussi favorable envers nous. Ça veut dire aussi pour nous. Jésus est pour nous. Il est favorable envers nous. Le psaume 135, verset 3 dit « Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. » Par Jésus-Christ, Dieu nous montre son amour. Tout le monde ici, je pense, connaît ce verset par cœur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est ça qu'il faut toujours garder en nous. Dieu ne veut pas nous tenir par comme ça, nous brider. Dieu veut nous sauver. Dieu nous aime. Tout nous est donné en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Christ. Dieu a donné son Fils pour que nous soyons sauvés par lui. Dieu n'est pas contre nous, il est avec nous, il est pour nous, il nous est favorable. Si nous restons dans sa communion et dans son amour, pourrions-nous croire que Dieu est contre nous? Quelquefois, on pourrait avoir cette réflexion qui nous vient parce qu'on est dans la difficulté. Alors on se dit, Dieu a quelque chose contre moi. Mais Dieu n'est pas contre nous. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Il veut nous sauver. Nous pouvons aussi rejeter toute crainte envers ceux qui pourraient se montrer nos ennemis. Parce qu'il y en a malheureusement, il y a des ennemis de Dieu. Et qui sont donc nos ennemis. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous avons tout pleinement en Christ. Donc Jésus est avec nous et Dieu nous donne toutes choses avec lui. C'est bon de se rappeler ça de temps en temps, hein, parce que on est dans un monde où les hommes se plaignent beaucoup, hein, se plaignent beaucoup, ils veulent avoir toujours plein de choses. Nous avons tout en Jésus-Christ. Tous les jours, je suis avec vous, tous les jours. Cela veut dire simplement qu'il n'y a pas un seul jour où Jésus n'est pas avec nous. Pas un seul. Cela est important de réaffirmer cette vérité. Parfois, nous pouvons avoir l'impression d'être seuls, abandonnés. Mais notre foi ne doit pas se baser sur ce que nous ressentons. Notre foi doit se baser, elle doit s'appuyer sur les promesses de Jésus, sur la parole de Dieu. Dieu ne ment pas. S'il dit qu'il est avec nous tous les jours, croyons-le. Faisons-lui confiance. Hébreux 13, 8, tout le monde connaît ce passage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis celui qui suis. Jésus-Christ ne change pas. Il n'est pas lunatique. Il ne change pas d'avis. Il est le Dieu fidèle. Les hommes sont changeants. Et on dit même, il n'y a que les sots qui ne changent pas d'avis. Donc, effectivement, nous pouvons changer d'avis parce que nous ne connaissons pas tout et que sur certains sujets, nous avons besoin d'être éclairés, d'être enseignés. Mais Dieu, il est omniscient, il connaît tout, il voit tout. Dieu ne change pas. À Samuel 15, 29, « Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Jésus ne ment point, il est avec nous tous les jours. C'est vrai. C'est vrai aussi que le soleil, on le voit actuellement, n'est pas toujours visible. Les nuages le cachent souvent. Il y a des jours sombres, des tempêtes. Mais le soleil est toujours là. Si le soleil n'était plus là, nous serions morts de froid. La vie ne serait plus présente sur la terre. C'est une image, hein, mais c'est la réalité. Même quand les jours sont difficiles et que l'on a l'impression que le Seigneur n'est pas là, il est toujours là. Car s'il n'était pas là, l'épreuve serait encore beaucoup plus pénible et même nous serions morts. Parce qu'il est dit, en Actes 15, 28, « Car en lui, Nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc si Jésus n'était pas là, nous serions morts. Jusqu'à la fin du monde. Après le déluge, Dieu a fait cette promesse en Genèse 8, 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Même si nous pouvons légitimement penser que nous sommes dans la fin des temps, ce monde n'est pas encore fini. Les jours continuent, les saisons continuent. Donc Jésus est toujours avec nous, nous aidant dans les difficultés et les épreuves de la vie, aussi pour résister aux attaques du diable. Jésus continue d'accompagner la prédication de sa parole et de soutenir ceux qui se confient en lui. Alors gardons précieusement ces paroles dans nos cœurs. 1 Jean 3, 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Tel qu'il est, nous verrons l'Éternel, nous verrons le Je suis tel qu'il est, dans sa toute-puissance, dans sa grandeur, dans sa gloire. Et bien que le Seigneur nous donne de bien comprendre qui il est, jusqu'à ce que nous soyons réunis avec lui. Amen.